Bonjour, bienvenue. On se retrouve dans Carrément Immo comme chaque semaine. Vous le savez, c'est l'émission dans laquelle je reçois deux intervenants qui viennent faire, qui viennent partager leur expertise sur mon plateau, qui viennent croiser leur regard sur un sujet bien précis. Et aujourd'hui, bien, le sujet du jour, il est un peu sur toutes les lèvres. Hein, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous l'avez compris, pour les métiers de l'immobilier. Alors, est-ce que c'est un simple outil du quotidien ou est-ce que ça devient une vraie révolution? C'est ce que nous allons voir avec mes deux invités. Victoria Safar, bonjour.
Bonjour, enchantée. Moi, je suis Victoria Safar, la fondatrice de Venture UI Academy.
Et donc, c'est une plateforme, c'est ça
qui... Exactement. En fait, on est une plateforme pour former les salariés en ligne. Notre objectif est vraiment de transformer tous les salariés en salariés boostés à l'IA. Et on le fait grâce à la formation, mais aussi on identifie les besoins. On met en place des solutions qui sont grâce à des outils internes et externes. Et puis, on forme sur ces solutions.
Et avec vous, Victoria Desserteau, vous êtes
bonjour,
administratrice de biens pour Montfort et Bon. Alors, petite présentation de rapide de Montfort et Bon.
Oui, bien sûr. Montfort et Bon, c'est un cabinet d'administration de biens. Donc, on fait de la gestion locative, du syndic de copropriété et de la transaction. On est principalement dans l'ouest parisien et on est une soixantaine de collaborateurs. On est, entre guillemets, indépendants.
D'accord. 60 collaborateurs, c'est quand même assez conséquent comme, comme structure.
Effectivement, oui. Mmh. Ouais.
Alors, Victoria, c'est vrai qu'on est là pour parler IA. Comment vous êtes arrivée à avoir l'idée de créer cette plateforme? Comment vous êtes intéressée à l'immobilier?
Alors moi, j'étais, avant de monter cette boîte, j'étais investisseur dans la tech en immobilier. Donc je faisais de l'investissement dans des startups immobilières. Et ça m'a permis de remarquer déjà une première chose, c'est que l'immobilier était assez lent pour intégrer la technologie. Et par conséquent aussi, c'était une des industries qui étaient les seules qui stagnaient en termes de productivité, alors que toutes les industries ont beaucoup évolué dans la productivité. Donc on s'est dit qu'il y avait une opportunité et puis aujourd'hui avec la montée de l'IA, on s'est dit que l'immobilier c'était la meilleure industrie pour nous parce que déjà on était experts et de l'autre parce qu'ils ils avaient des besoins en termes de technologie pour pouvoir augmenter cette productivité et améliorer le quotidien des salariés et des clients.
Alors l'IA c'est un peu vaste, c'est vrai que quand on dit IA ça veut un peu tout et rien dire, et quand on parle d'IA dans l'immobilier, donc pour les métiers de l'immobilier, j'entends par là dans le quotidien des professionnels de l'immobilier, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Concrètement, l'IA dans l'immobilier, au début, ça va être vraiment pouvoir automatiser des tâches administratives, donc rédaction d'emails, rédaction de documents, recherche de documents, parce que je sais que ça prend beaucoup de temps, des recherches réglementaires, mais après, on peut même aller plus loin, faire de l'analyse de données pour faire de la prédiction de vente, on peut... même pouvoir créer des algorithmes en fait qui vont faire du match automatique entre des personnes qui recherchent à acheter et des biens en vente. Donc il y a beaucoup de choses. Après ça va aller plus loin, mais pour des professionnels de l'immobilier, ça passe d'abord par leurs tâches quotidiennes et les tâches administratives qui sont quand même assez prenantes dans leur quotidien.
Alors, exactement. Victoria Desserteau, c'est quoi votre relation à l'IA déjà? Est-ce que vous en avez une? J'imagine. Et comment ça s'est fait? Et comment vous vous êtes dit? À quel moment vous vous êtes dit ça peut m'aider dans mon travail?
Alors du coup, nous, on a toujours été précurseurs, c'est-à-dire qu'on a toujours aimé tout ce qui était innovation, on a toujours été vraiment à l'affût de ça. On a mis très tôt en place la signature électronique, alors que peu l'avaient déjà fait. Et après, ChatGPT, c'est un peu arrivé facilement. Donc nous, on a commencé à essayer. Et c'est en essayant qu'on s'est rendu compte de toutes les possibilités de l'intelligence artificielle. Donc en fait, au début, on avait essayé simplement pour reformuler des mails, faire attention à l'orthographe. Et en fait, après, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une possibilité qui était infinie, parce que maintenant on peut faire prémâcher certaines choses, par exemple faire des comparatifs de devis, des comparatifs d'état des lieux. Alors bien évidemment, il faut toujours faire attention.
Oui, bien sûr.
Faire des recherches aussi réglementaires. Alors évidemment, ChatGPT n'est pas forcément à jour. On en parlera après, parce que justement, à Victoria, on voudrait mettre un chatbot réglementaire justement pour nous aider à pallier à ça. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes les tâches qui sont chronophages dans notre métier, elles pouvaient être soutenues par l'intelligence artificielle et nous permettre de nous dégager du temps pour faire d'autres choses et notamment pour tout ce qui est privilège de la relation humaine avec le client qui est aujourd'hui très importante.
Donc l'objectif numéro un, c'est vraiment aller plus vite sur les tâches, quoi.
Sur les tâches qui sont répétitives et chronophages, c'est-à-dire toutes les tâches qui sont redondantes, c'est les automatiser pour qu'on puisse en fait se focus sur quelque chose de plus important qui est l'humain.
Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux?
Bah, par nos pères. du coup, nos parents sont tous les deux dans l'administration de biens.
Ouais.
Et du coup, sur, je crois, un événement, on s'est rencontrés et ça a tout de suite matché puisqu'on est très complémentaires. Donc, relation très facile.
Exactement. Alors, est-ce qu'on peut parler justement des cas d'usage? Comment vous avez commencé à collaborer ensemble? Qu'est-ce que vous avez proposé, on va dire, est-ce qu'on peut dire un produit? Oui, comme produit.
Bah, comme le disait Victoria, donc on s'est toujours tout de suite très bien entendu. Et bah moi j'étais beaucoup intéressée par ce qu'elle faisait et vice versa. Donc j'ai proposé qu'en fait on s'appelle pour que puisse mieux comprendre elle, comment elle, enfin quel était son rapport avec la technologie, comment elle utilisait ChatGPT, quels étaient ses problèmes. Et en fait suite à cet appel où je lui ai posé beaucoup de questions pour vraiment comprendre mieux. Un cas d'usage est ressorti, c'était la relance d'impayés. Donc en effet, Victoria, enfin je me parlais de
faire
ta place, mais tu avais un problème où en fait un peu un remaniement en interne et du coup plus personne n'était là pour faire de la relance d'impayés. Et moi je lui ai dit mais attends, l'IA ça peut vraiment avoir un impact là-dessus parce que c'est une tâche qui est très chronophage. D'un côté il faut tous les jours regarder qui n'a pas payé. Donc voilà, c'est.
On parle des locataires là.
Locataire, copro,
propriétaire. En tant que syndic, c'est ça.
En fait, on
syndic et gestion locative.
Exactement. Voilà, en fait, ouais. Si vous voulez, nous, on a tout le temps besoin de relancer, donc que ce soit les copropriétaires ou les locataires, pour le règlement des charges ou des loyers.
Ouais.
Et du coup, c'est un traitement qui est lourd et fastidieux. Et en fait, les sommes sont dues. Et en fait, on fait énormément de relances, ça prend énormément de temps. Et c'est à cet effet qu'on s'est posé la question comment automatiser et gagner du temps sur cette tâche qui est primordiale, parce qu'en copropriété, pour faire tourner votre immeuble, vous avez l'obligation de récupérer les charges. Et les loyers des locataires, les propriétaires bailleurs ont besoin de leur loyer.
Bien sûr, oui.
Voilà. Donc, du coup, et en fait, ce rappel mensuel ou trimestriel est assez lourd. Il nous prend beaucoup de temps. Et du coup, on s'est intéressé au fait de pouvoir avoir un soutien par rapport à ce sujet.
Oui, parce qu'avant ça, vous le faisiez comment manuellement? En fait, vous étiez obligé de regarder.
On a des listes, exactement. Ouais. On a des listes. Et du coup, on fait des relances par mail, des relances en appel. Et des relances par courrier, mise en demeure, etc.
D'accord.
Donc voilà.
D'accord. Et donc là, la solution,
là,
ça permet.
Voilà, exactement. En fait, ça permet déjà d'identifier automatiquement quels sont les impayés, quel est le montant de l'impayé et prendre le contact. Et l'IA peut contacter directement la personne qui est en impayé pour le relancer. Plus gentiment aussi qu'une mise en demeure. Je sais que dans l'immobilier, voilà, la mise en demeure, c'est l'étape numéro 2 en cas d'impayé. Là, parce qu'aussi, ils n'ont pas le temps. Il faut se mettre à leur place. Ils n'ont pas le temps. Ils ont besoin de pouvoir avancer. Et là, ça permet de pouvoir faire plus de relances avant de faire aussi une mise en demeure. Et ça permet aussi de fluidifier les relations clients.
Oui. Oui, c'est moins hard. On ne reçoit pas tout de suite une mise en demeure.
Exactement.
Il y a plus de.
Il y a plus d'étapes. Ouais. Un petit mail. Bonjour, madame Michu. Voilà, nous avons vu que vous étiez en impayé depuis telle date. Voici le montant d'impayé. Voilà, voici pourquoi vous devez payer ça. Si c'est les charges, si c'est votre loyer. Merci de vous rapprocher de votre gestionnaire pour pouvoir régulariser votre situation. Mmh. Parfois, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont en impayé.
Oui, parce qu'il y a souvent des oublis. Les charges, par exemple, comme c'est chaque trimestre, on peut oublier, on est happé par la vie.
Exactement, il y en a beaucoup qui oublient, il y en a beaucoup qui mettent du temps. Moi, combien de fois on m'a dit, j'ai mon chèque, il est dans mon sac, j'ai oublié de le déposer. Enfin voilà, il y a des oublis. Alors, il y a aussi des gens qui peuvent être mauvais payeurs, bien évidemment, mais il y a parfois des gens qui oublient, ou du coup, ça dépend des situations.
Donc là, c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'avoir un dispositif qui permet de relancer, on va dire, de façon sympathique.
Exactement, exactement.
Et de répondre à des questions aussi, parce qu'il y a des impayés, en fait, les gens posent des questions qui sont relatives, par exemple, à un locataire, on peut le relancer parce que son loyer est révisé et du coup, il y a un delta. Et du coup, ça permettrait, en fait, que la réponse soit apportée directement. Alors, bien évidemment, quand ils nous demandent, on leur répond. Mais c'est vrai que parfois, il y a une certaine méconnaissance de la législation ou une incompréhension.
Ah oui.
Et du coup, l'IA permet, en fait, de répondre automatiquement à ça et du coup, de nous décharger de cette tâche-là, donc de nous faire gagner du temps.
Donc là, il y a aussi une réponse automatique, c'est ça?
Oui. Oui. Réponse automatique et puis redirection. Même, on peut aussi envisager des liens de paiement directement aussi dans le mail. C'est au bon vouloir, en fait, de la.
Ça, c'est quand même pratique, parce que c'est vrai que les chèques, etc.
Oui, à l'ancienne.
Il n'y a pas que les chèques en moyen de paiement, je vous rassure.
Ouais, non, parce que c'est vrai que c'est fastidieux, on va dire. Alors, autre cas d'usage, un truc hyper intéressant, un assistant qui gère les appels, les pics d'appels. Il s'appelle Joe. C'est ce que
Exactement.
Vous avez créé.
Alors moi je l'ai pas créé, en fait c'est
Vous l'utilisez, c'est vous proposez.
Exactement, c'est une solution externe en fait, ouais, qu'on propose à nos clients, qui a déjà été mis en place du coup chez un de nos clients. En fait, qui permet de gérer les appels entrants. Donc, ouais, il ne fait aucun appel, il n'appelle pas les gens, oui, il répond aux appels qui sont entrants en cas de surcharge. Donc, ça veut dire soit il y a personne au bout du fil, ou soit il y a une IA. C'est toujours mieux d'avoir une IA que personne. Et ça permet.
C'est moins frustrant.
Exactement, c'est moins frustrant. Ouais. C'est pas une IA où on dit taper un, taper deux. C'est vraiment une IA qui répond, qui reconnaît le copropriétaire ou le locataire, qui lui demande quel est son problème et qui peut même traiter, envoyer des documents par mail, réinitialiser ses mots de passe extranet. Franchement, ça a pas mal de bénéfices. Ça permet de faire gagner du temps d'un côté et que le client soit moins frustré, qu'il ait une réponse assez rapidement. Chaque appel entrant a créé un ticket, donc les gestionnaires peuvent revoir tous les appels qui ont été faits, toutes les discussions, peuvent réécouter les discussions. Et quand l'IA n'a pas pu résoudre le problème, ça envoie un mail à la gestionnaire en disant « il y a tel client qui a appelé, voici son problème, merci de le rappeler ».
Donc c'est assez pratique, j'imagine que sur 10 clients qui ont un problème, ça peut peut-être gérer, on va dire, 4 problèmes sur 10, c'est ça grosso modo?
Exactement, en fait, chez mon client, ça gère 40%, ça automatise 40% d'accord, des demandes administratives, ce qui est énorme.
Bien sûr.
Et le reste, voilà, ça renvoie à la gestionnaire et au moins, il y a quand même quelqu'un qui dit, enfin une IA, pardon, qui dit, voilà, on a bien pris en charge votre demande, on va vous rappeler et le client est moins frustré aussi.
Donc, il y a déjà un premier tri non négligeable, hein, parce que 40%, c'est pas négligeable. Quand vous entendez ça, Victoria, alors c'est vrai que là, je pense plutôt au syndic de copropriété. C'est vrai que c'est un peu le métier qui reçoit beaucoup d'appels, souvent des appels pas très sympas. on le sait, hein. Et puis parfois des appels un peu des choses simples au final. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle quand vous entendez ça?
Ah bah oui, tout à fait. Bah du coup, nous, on a vraiment la volonté de mettre en place Joya chez nous. Effectivement, c'est ce qui en ressort le plus, c'est-à-dire que la majorité des appels sont des appels pour des questions qui sont relativement simples. Alors évidemment, on a des dossiers compliqués, mais il y a beaucoup de questions qui sont très faciles. Il y a des gens qui nous appellent tout simplement pour savoir combien ils nous doivent, alors qu'ils ont déjà des espaces privilèges sur lesquels il y a les réponses. Mais voilà, ils nous appellent pour avoir la convocation ou le PV qu'ils ont déjà reçu. Et c'est-à-dire que parfois, on traite des informations qui sont des actions qui sont déjà traitées et on se répète énormément. On a des tâches qui sont automatisées et on en a beaucoup. Et en fait, on se répète énormément. Donc en fait, le Joya viendrait vraiment en soutien. Donc en fait, ce qu'a dit Victoria pour la surcharge, nous, on aimerait vraiment mettre en place ça, cet assistant conversationnel quand par exemple un collaborateur est déjà en ligne ou pendant l'heure de table ou même parfois pendant les heures de fermeture parce qu'il y a des gens qui nous appellent
le soir,
très
en fait,
tard, le week-end, le dimanche,
Ah oui.
Ah oui, oui. Donc, voilà. Donc, ça nous permettrait vraiment de soulager les collaborateurs et qu'en fait, ils puissent avoir les clients puissent avoir les réponses à leurs questions et les collaborateurs que ça puisse un petit peu les décharger et du temps pour traiter les dossiers de fond qui sont très importants et prendre du temps pour garder cette relation humaine et appeler les clients sur les sujets qui sont importants, sur les dossiers qui sont difficiles. Et en fait, ça nous permettrait vraiment de gagner du temps sur les sujets qui le méritent en fait.
Et là, vous parlez un peu du terrain justement, là, d'après ce qu'on comprend. Il y a beaucoup d'appels, on a l'impression que c'est simplement pour être rassuré pour une petite vérification ou confirmation.
Oui, oui.
Et c'est vrai que ça, c'est hyper chronophage pour les équipes.
Oui, oui. Énormément. On a beaucoup de gens qui nous appellent pour savoir si on a bien reçu le mail. mais c'est vrai, il y a pas mal de gens qui nous appellent pour des questions qui sont effectivement très simples. Et du coup, c'est vrai que du coup, nous, ça nous prend du temps. Et quand on est au téléphone, on peut moins faire, donc c'est un petit peu compliqué parfois pour les équipes de gérer. Et c'est vrai que la demande d'avoir moins de temps au téléphone est demandée par les collaborateurs, sauf que malheureusement, nos clients, on est obligé d'être disponible pour eux. Et je pense que le fait de mettre Joya en soutien de surcharge, quand c'est du double appel, quand vous êtes en rendez-vous, pendant l'heure de table, ça permet de décharger un petit sur des questions qui sont relativement simples, où un assistant conversationnel peut carrément prendre le relais.
Et puis vous l'avez dit, au moins si les clients appellent le soir ou le week-end, ils auront au moins une réponse.
Exactement.
Quelqu'un qui répond au téléphone, la machine qui répond.
Oui, c'est toujours mieux que personne.
C'est mieux que le téléphone. Exactement. Qui sonne dans le vide. Alors, pour vous, petite question, l'IA, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un véritable outil du quotidien ou est-ce que c'est vraiment une révolution? Est-ce que ça va changer totalement la donne, réinventer les métiers?
c'est, pour moi, c'est une vraie révolution. Ça veut dire qu'il y a eu Internet qui a déjà été une première révolution technologique. Là, ça va être une révolution technologique qui va être encore plus grande et plus rapide. On le voit, là, il se passe beaucoup de choses sur l'IA, ça avance très rapidement. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer des métiers, ça ne veut pas dire que ça va remplacer des personnes. Mais au contraire, nous, notre vision, c'est vraiment que ça va booster les employés, les salariés, les dirigeants pour pouvoir apporter de la meilleure... des services de meilleure qualité. Aussi, de l'autre côté, on voit bien que tous les coûts augmentent, que les marges diminuent. Ça va pouvoir, en fait, rebalancer un petit peu ça, diminuer les coûts, augmenter les marges, pouvoir avoir des entreprises plus saines, des employés aussi plus heureux parce qu'ils vont être un petit peu déchargés. Toutes les tâches les plus automatisables, c'est les tâches qu'on aime le moins, finalement.
Bien sûr.
C'est les plus fastidieux. C'est, donc, ça va pouvoir décharger, rendre un petit peu plus...
sexy, voilà, on va dire, le
exactement,
le
des
travail
métiers qui peuvent être...
Et donc, attirer les talents.
Attirer aussi des talents et pouvoir se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Il y a une étude de McKinsey qui dit que l'IA, ça va pouvoir automatiser jusqu'à 40% des tâches. Donc, ce n'est pas automatiser 40% des métiers, c'est vraiment au sein de chaque salarié, ça va pouvoir leur automatiser 40% de leurs tâches. Donc, ils vont pouvoir passer plus de temps avec leurs clients, plus de temps humain et plus de temps sur des tâches un peu compliquées.
Même question pour vous, c'est aussi une révolution ?
Oui, je suis d'accord. Alors, c'est aussi un outil au quotidien, du coup, pour nous, mais effectivement, c'est une révolution. Je pense que ça va changer notre métier et je pense que Victoria a vraiment tout dit parce que, bon, du coup, on en parle, c'est vrai, que assez fréquemment et c'est exactement ça, c'est-à-dire faire gagner du temps, faire gagner en efficacité pour nos collaborateurs, qu'ils soient effectivement déchargés de cette redondance sur des sujets, de pouvoir se focaliser sur des sujets compliqués, de pouvoir prendre du temps pour des formations, pour pouvoir gérer l'humain. Je pense que notre métier, comme vous le savez, surtout ça indique un peu mauvaise presse et du coup redonner un côté humain en automatisant certaines tâches, je pense que c'est une vision qui est très importante et je pense qu'il n'y a que l'IA qui peut nous aider à arriver à ça.
Alors, qui dit vraie révolution dit aussi résistance, blocage. Vous avez évoqué Internet, c'est vrai que quand Internet est sorti, il y avait des gens qui étaient très réfractaires, mais ça c'est nul, ça marchera pas. Là, c'est ce qu'on entend aussi pour l'IA. Moi, j'ai encore entendu il y a deux jours une personne me dire « Oh non, mais c'est un peu bullshit ». Est-ce que dans vos équipes, il y a eu des blocages, des gens qui étaient un peu réticents au changement ?
Alors, il y en a toujours, partout. Après, c'est un petit peu générationnel. Moi, je vois, on a une partie de l'équipe qui est quand même très jeune.
D'accord.
Du coup, pour les jeunes, une évidence, donc il n'y a pas de sujet. Après, il y en a qui sont réticents, mais c'est vrai que quand on les accompagne et qu'on leur explique, ça va. C'est un petit peu plus long, mais généralement, ils s'y mettent. Et puis là, du coup, avec l'Aventurio Academy, donc nous, on l'a bien évidemment diffusé à tous nos collaborateurs. Les premiers cours vous expliquent vraiment ce qu'est l'IA, à quoi elle correspond. Ça permet aussi d'enlever tous les mythes qu'il y a autour de ça. Donc j'invite vraiment les gens, je fais un peu de publicité, mais bon. Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne formation parce que du coup, je pense que justement, pour les gens qui sont réticents, ça explique vraiment les mythes, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire est-ce que ça va nous remplacer ? En fait, pas du tout.
C'est la première peur.
Oui, c'est ça. En fait, l'IA ne nous remplacera jamais. En fait, l'IA, moi, je le vois plutôt comme un allié, comme un soutien qui nous permet de nous alléger et d'aller vers autre chose et du coup de changer le métier plutôt que quelqu'un qui viendrait nous manger tout cru.
Totalement.
Donc la formation, c'est primordial en fait.
La formation, c'est primordial parce que ceux qui sont réticents, c'est ceux qui ne comprennent pas. Enfin, même à l'époque d'Internet, les plus réticents, ils ne comprennent pas, ils ont peur. Ouais. Et finalement, pour pallier à ça, c'est comprendre, apprendre. Et aussi, quand on comprend et qu'on apprend, c'est là où on peut vraiment l'intégrer dans notre quotidien. Donc c'est pour ça que nous, c'est vraiment la première étape quand on accompagne des clients. On forme, qu'elles soient les dirigeants aussi, pour pouvoir comprendre les meilleurs cas d'usage avec l'IA, pour pouvoir sensibiliser aux risques. Mais surtout, quand on l'utilise au quotidien, on aura les meilleurs bénéfices de l'IA. Et pour ne pas passer à côté des bons bénéfices de l'IA, il faut vraiment pouvoir comprendre en profondeur qu'est-ce que l'IA peut faire, qu'est-ce que l'IA ne peut pas faire, et pour ne pas perdre de temps aussi sur essayer de tirer l'IA sur des choses où il n'est pas forcément
bon. Où il y a ses limites.
Exactement. Oui. Et peut-être que dans quelques années, ils vont continuer à pousser les limites. Mais aujourd'hui, l'IA a ses forces, notamment sur de la rédaction, Et savoir l'utiliser sur les forces de l'IA et sans l'appréhender. L'intégration de l'IA passe vraiment par l'utilisation des employés, et l'utilisation des employés, ça passe par comprendre et apprendre et être à l'aise avec le concept.
Alors l'IA, on rappelle à nos auditeurs, en fait, c'est une espèce de machine qui va emmagasiner de la data et il faut la travailler.
Exactement. En fait, l'IA, ça va être plein de techniques informatiques regroupées qui vont imiter des comportements humains comme apprendre, percevoir, agir, etc. Et en fait, on va lui mettre de la donnée pour qu'il puisse apprendre et comprendre. Évidemment, il n'a pas d'intuition, il n'a pas d'émotion, donc il ne comprend pas comme un humain. Donc moi, je connais plein de gens qui utilisent l'IA aussi comme psychologue, mais vraiment, je ne recommande pas, parce qu'il ne comprend pas les émotions.
Il y a une étude qui est sortie là-dessus, d'ailleurs, qui est assez effrayante. Je crois que c'est un autre cabinet de conseil, je crois que c'est le BCG qui a sorti cette étude, justement, sur les dangers de l'IA. C'est vrai que ça peut être aussi...
C'est un vrai danger, surtout quand on l'utilise comme psychologue et qu'on l'utilise pour prendre des décisions dans notre vie privée, prendre des décisions dans notre vie professionnelle. C'est des décisions qui sont rationnelles. Dans notre vie privée, c'est des décisions émotionnelles. Donc, on ne peut pas lui demander de prendre des décisions pour nous, en tout cas dans ce cadre-là. Mais ça nous permet de vraiment mieux comprendre. Et donc, la donnée, c'est vraiment primordial d'avoir de la bonne donnée pour que, c'était comme un enfant. Si on lui apprend les mauvaises choses, il va retranscrire les mauvaises choses. Donc, il faut lui mettre de la bonne donnée. Et grâce à ça, il va pouvoir apprendre, comprendre et aller de plus en plus loin. Faut le coacher un petit peu comme un stagiaire. On lui donne des directives.
Faut l'entraîner,
Il faut lui donner du contexte, des directives, des exemples, des choses à ne pas faire. Et après, grâce à ça, au bout d'un moment, l'IA va devenir meilleure et meilleure comme un stagiaire qu'on a qui arrive le premier jour. Au bout d'un mois, il va nous connaître comment on écrit, connaître les choses qu'on a envie de faire et être beaucoup plus fluide. Après, l'IA, ce n'est pas que ChatGPT, il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a beaucoup d'autres IA, quoi.
Oui, d'ailleurs, vous en proposez, vous proposez plusieurs IA. Vous avez dit un bon prompt améliore la réponse de 80%.
Exactement. Donc, un prompt, c'est la communication avec l'IA. Et ça, c'est des études qui ont été faites. Donc, par exemple, aujourd'hui, prenons un exemple, pas d'immobilier, faire un gâteau au chocolat. On va lui dire, donne-moi la recette d'un gâteau au chocolat, il va donner une recette un peu lambda. Si on lui dit, tu es un expert de la pâtisserie, inspire-toi des recettes de Pierre Hermé, je veux impressionner mes amis, enfin on lui donne un peu le but, et là il va nous donner une recette d'un gâteau au chocolat avec des ustensiles, avec un ganache autour pour qu'il puisse être plus présentable, un peu de croustillant avec des noisettes, alors que de l'autre côté ça va être une recette un peu classique, préchauffer le four, mettez les œufs, juste un moelleux au chocolat, quoi.
Donc plus on est précis, plus il y a de contexte.
Exactement.
Et la réponse est adaptée à nos besoins.
Exactement, adaptée, longue et détaillée.
Donc il n'y a pas photo, en fait, il faut une formation.
Pour apprendre à communiquer, il faut une formation. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de demander à l'IA de réécrire mon prompt. Donc je lui donne un petit peu de contexte et je lui dis est-ce que tu peux tu es un expert en prompting, c'est pour tel outil, est-ce que tu peux mieux écrire ce prompt, et du coup il me réécrit un prompt pour que cet outil là me comprenne mieux.
Donc ça veut dire que il vous écrit un prompt que vous allez après lui renvoyer
à lui ou à une autre IA, donc à ChatGPT, ou par exemple si je veux créer une présentation sur Gamma ou sur Genspark, et du coup je vais lui dire je veux utiliser tel outil, est-ce que tu peux m'aider à écrire mon prompt pour tel outil, t'es un expert de cet outil là et du coup il va m'écrire le meilleur prompt, soit pour lui-même, soit pour ChatGPT, ou soit pour l'autre outil, quoi.
Quelles sont les intelligences artificielles que vous recommandez? Vous citez Gamma.
Ça dépend de ce qu'on a. En fait, il y a deux types d'IA. Nous, on en crée aussi un petit peu pour nos clients. C'est ce que Victoria disait. C'est que on a développé un chatbot qui est vraiment entraîné sur toute la réglementation immobilière. Donc, on peut créer pour nos clients. Mais sinon, il y a des IA comme ChatGPT, Gamma, Genspark, où c'est vraiment de l'IA en autonomie. On se connecte, on apprend un petit peu tout seul, ou nous, on fait des formations sur ces outils. Et après, il y a des choses pour aller un petit peu plus loin, comme Joe AI dans l'immobilier, il faut parler avec les dirigeants, il faut pouvoir l'intégrer avec la donnée, où il y a un petit peu plus de travail que juste se connecter sur une interface.
Oui. Après, là, c'est vraiment un outil qu'on doit apprivoiser.
Exactement.
Et c'est plus pointu.
C'est plus pointu, c'est en contact avec les clients, donc il faut faire attention, il faut faire du suivi avec les outils, au lieu d'avoir juste une interface comme ChatGPT, où on peut juste discuter avec, où il y a directement des bénéfices. Après, il y a des outils pour un petit peu tout et n'importe quoi, pour écrire ses posts sur LinkedIn, par exemple, il y a Magic Post, il y a Perplexity, si on veut faire de la recherche un peu plus avancée que sur ChatGPT. Je parlais pour faire des présentations rapides. Après, le problème, c'est que quand on fait des représentations, on a envie de mettre de la donnée, du coup, de la donnée de nos clients, mais du coup, c'est mettre de la donnée dans des IA. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment se former, pour savoir quel genre d'informations on peut mettre et comment on peut un petit peu changer ça pour ne pas divulguer des informations de clients, pour pouvoir créer des présentations automatisées.
Est-ce qu'il faut se méfier, justement ?
Il faut se méfier. Il faut se méfier. Ça va être utilisé dans les entraînements. Ça veut dire que demain, vous donnez une information sur vous personnel ou sur votre client, elle peut se retrouver sur Internet.
Bien sûr.
C'est comme la publier sur Internet finalement, donc il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que l'Europe a créé tout ce qui était RGPD, l'IA Act, donc toutes les IA européennes et françaises, du coup, faut moins se méfier, mais il faut quand même faire attention sur le partage des données.
Victoria, comment vous voyez l'évolution de votre métier ? Donc, j'imagine dans 2-3 ans, un futur assez proche, relativement proche. Comment vous voyez le métier d'administrateur de biens avec cette intégration de l'intelligence artificielle ?
Je le vois de façon un peu remodelée. Je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit, je pense que du coup, l'intelligence artificielle va vraiment venir nous soutenir dans nos tâches au quotidien. Nous, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est l'avancée des logiciels métiers, notamment avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a pas mal de logiciels métiers sur le marché. Il y en a qui se développent énormément en prenant justement en compte la possibilité d'intégration de start-up et l'intelligence artificielle au quotidien avec les mails. Je pense que ça va se diriger sur ça et je pense que toutes les tâches qui vont être, qui sont chronophages pour nous, toutes les tâches qui sont répétitives, redondantes, seront prises en charge par l'intelligence artificielle et du coup les collaborateurs auront un allègement de tout ça et je pense que ça va se diriger faire une petite révolution, ça va changer un peu la face de notre métier.
Est-ce que ceux qui n'utilisent pas l'IA seront lésés ou perdront des clients ?
Perdre des clients, je sais pas, mais léser, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que l'IA nous donnera vraiment en efficacité. Et du coup, je pense forcément que ceux qui n'utiliseront pas l'IA perdront du temps sur des tâches où nous, on n'en perdra pas ou plus. Et je pense que du coup, nous, ça nous permettra de gagner du temps pour nous concentrer sur d'autres tâches et qui seront importantes. Et en fait, ça nous permettra en fait de mener la barque plutôt que de la subir, en fait.
Donc, vos confrères qui n'utiliseront pas l'IA auront peut-être un développement moindre.
Ouais, peut-être moins rapide, je pense, ouais.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, de sauter le pas ?
Oui, carrément. moi, je suis pour, absolument pour. De sauter le pas. En tout cas, si les gens ont peur aujourd'hui, au moins, de regarder, de s'imprégner de ça, de se poser des questions, de faire des formations, au moins de s'intéresser au sujet pour voir et s'ils ont des craintes, d'essayer de comprendre pourquoi. Et déjà, c'est un premier pas pour l'IA et puis ceux qui aiment ça, d'y aller.
Pour finir, c'est quoi les futurs défis de l'IA ? Sur quoi vous travaillez peut-être ? Des nouveautés,
C'est de toujours aller de plus en plus loin. On le sait tous et il ne faut pas l'oublier. L'IA peut être biaisée, peut faire des erreurs, peut avoir des hallucinations. Hallucinations, c'est aussi des erreurs, finalement. Ça, c'est un peu les challenges de l'IA pour pouvoir être de plus en plus précis et qu'on puisse avoir des IA où on peut avoir 100% confiance. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il ne faut vraiment pas l'oublier. C'est un risque. Donc, il faut toujours revérifier, repasser derrière une IA. C'est comme un stagiaire. Il peut faire des erreurs, ça arrive. Il apprend aussi de ses erreurs. Ça, c'est les plus grands défis, je pense, de l'IA. Et puis après, aller sur de plus en plus de cas d'usage, vu qu'il y a des erreurs, il y a des IA qui sont déjà un petit peu, qui sont devant des clients, mais on limite quand même, on va pas du tout remplacer l'humain parce qu'on veut privilégier la relation humaine, mais aussi parce qu'il y a des erreurs, donc on peut le mettre un petit peu, mais on sensibilise aussi les clients sur les erreurs et que, on le sait, l'IA n'est pas parfaite, quoi.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. On a bien fait le tour de tout ce que l'intelligence artificielle engendre pour les métiers de l'immobilier. Et puis nous, on se retrouve à la rentrée pour un prochain épisode de Carrément Immo. À très vite et bonnes vacances.